RMC Intégral Tour. Jean-François Pérez.
L'intégral Tour de France sur RMC jusqu'à 20h. Christophe Cessieux et son orchestre en direct dans un instant. Toute la Dream Team mobilisée pour vous. Mais avant cela, comme tous les soirs à 19h05 sur RMC, c'est le Journal des Sports version turbo avec Martial Fernandez. Rebonsoir cher ami.
Bonsoir à tous.
Le Tour et d'ailleurs un autre coureur qui a mis le turbo cet après-midi au sprint à Saint-Quentin dans l'Aisne, même vainqueur qu'hier.
Oui, ce coureur c'est l'Allemand André Greipel qui gagne pour la deuxième fois devant l'Australien Matt Goss, l'Argentin à Edo et le Français Dumoulin qui est quatrième. Le champion du monde Mark Cavendish se contente de la cinquième place. On retiendra aussi la belle échappée de quatre coureurs partis dès le kilomètre zéro. Les Français Ladagnous et Julien Simon. Le Belge Gesselink échappée reprise à seulement 200 mètres de l'arrivée. Mathieu Ladagnous de l'équipe FDJ a cru jusqu'au bout à la victoire. Il en ressort avec une grande frustration. Ladagnous au micro de Georges Quiridon.
On n'a pas eu trop de temps d'avance, donc j'ai bien fait gérer les mecs dans l'échappée. J'avais pas envie qu'on prenne trop, et quand c'est revenu trop près de nous, on a encore ralenti pour que le paquet se réarrête. Et on vient mourir à 50 mètres de la ligne, c'est décevant.
Pas de changement au classement général. Fabian Cancellara toujours en jaune avec 7 secondes d'avance sur Wiggins et Chavanel. Demain, une étape sans difficulté particulière, 207 km 500 entre Épernay et Metz. On connaît aussi les 4 coureurs français qui participeront à la course sur route aux Jeux Olympiques. Et surprise, Mickaël Bourguin, le pistard spécialiste du sprint, déjà médaille olympique, fait partie de la sélection. L'explication est en fait réglementaire. Bourguin, qualifié en Kérine, doit obligatoirement être aligné dans une autre discipline pour pouvoir participer au Kérine. Il sera donc au départ de la course sur route, mais évidemment sans ambition particulière.
Même si j'ai toujours dans un coin de ma tête rêvé de faire une carrière pro sur la route, ça m'avait titillé après en 2008, après les Jeux de Pékin, je peux pas à l'heure actuelle prétendre jouer un rôle dans la course sur route, c'est quasiment impossible. Là, je m'entraîne depuis des années sur la piste, sur des efforts brefs et des préparations totalement différentes. Et puis nous, c'est des sprints très très courts qui sont très brefs et sur la route, bon, ça fait 250 km, c'est complètement différent. Après, c'est sûr qu'on voit des sprinteurs, notamment Théo Boss, qui réussit bien la transition, mais ça demande quand même un temps d'adaptation assez important tout de même.
Et les trois autres sélectionnés sur route seront Sylvain Chavanel, Arnaud Démare et Tony Galopin.
Et on en reparle tout à l'heure dans Before London sur RMC, votre rendez-vous olympique quotidien entre 20h et 22h. Le foot, une petite révolution puisque la technologie sur la ligne de but, savoir si le ballon a franchi ou pas la ligne, eh bien cette technologie a été autorisée dans certains tournois par la Fédération Internationale de Foot.
La FIFA vient de l'annoncer il y a quelques instants et la première utilisation, ce sera notamment au Mondial des clubs en décembre 2012, mais aussi à la Coupe des Confédérations et au Mondial 2014 au Brésil. C'est en effet une révolution. Autre information, l'arbitrage à 5 autorisé dans toutes les compétitions officielles.
Et puis autorisé, mais pas obligatoire.
Exactement. Et puis une décision bien plus politique, le port du voile pour les joueuses, également autorisé par la FIFA. On sait que la Confédération Asiatique faisait pression pour que cette mesure soit mise en place.
Bien, Eli Bop, le nouvel entraîneur de l'OM dont on parlait tout à l'heure dans l'intégral Tour, a rejoint les joueurs marseillais en stage ce matin, c'était à Crans-Montana. Ils y sont toujours d'ailleurs en Suisse.
Une première prise de contact avec les joueurs, les Marseillais qui ont écouté les premiers mots d'Eli Bop et les ont observés à la loupe. Message clairement affiché, Eli Bop, sans casquette face aux journalistes, vient pour travailler avec tout le monde au club. Terminer les dissensions, il était d'ailleurs assis aux côtés du directeur sportif José Anigo lors de la conférence de presse. Eli Bop.
C'est ce qui est important et je répète, c'est l'harmonie globale et l'uniformité dans le projet. Ça parle de l'actionnaire, du président, du directeur sportif, des joueurs, du staff médical, de ceux qui travaillent. La préoccupation essentielle d'un entraîneur, elle doit être d'être en phase avec son club, avec le projet du club. Pour moi, c'est ça ma grande préoccupation, ma grande envie, c'est que tous ensemble, on réussisse à permettre aux joueurs de s'éclater.
Eli Bop, le nouvel entraîneur de l'OM au micro d'Edouard G.
Le tennis à Wimbledon, on connaît l'affiche de la finale dames qui aura lieu samedi.
Ce sera Serena Williams face à la polonaise Agnieszka Radwanska. L'américaine a battu cet après-midi la biélorusse Victoria Azarenka en deux manches. Elle tentera samedi de remporter son cinquième tournoi de Wimbledon. Williams jouera face à une néophyte à ce niveau, la polonaise Radwanska victorieuse. La polonaise Radwanska victorieuse de l'allemande Angélique Kerber. Et puis Joe Wilfried Tsonga, lui, lui, c'était plus tranquille aujourd'hui. Petit entraînement sur un court annexe. Et on sait qu'il jouera demain en deuxième match face au chouchou du public londonien, Andy Murray, juste après l'autre demi-finale entre Djokovic et Federer.
Et ce sera à suivre en très grand fil rouge sur RMC. Tsonga Murray, demi-finale de Wimbledon. Le basket et l'équipe de France masculine et la fédération qui a donné aujourd'hui la liste des 12 joueurs sélectionnés pour les JO.
Avec notamment la présence d'Ali Traoré au poste de pivot à la place de Joachim Noah. Parker et Batum sont bien sûr sélectionnés, mais il y a encore beaucoup de questions autour de leur présence finale du côté de Londres. Batum qui attend de trouver un club pour avoir une assurance et être couvert quand il joue, et Tony Parker qui est parti aux États-Unis pour faire examiner son œil par un médecin et obtenir l'autorisation de son club de San Antonio. Vincent Collet, lui, le sélectionneur, veut se montrer optimiste.
Tous les avis qu'il a reçus pour l'instant sont plutôt vont dans le bon sens. Maintenant, il est parti là, alors qu'on vous parle, hein, c'est ça, Patrick, hein, je dis pas de bêtises. Il est parti aux États-Unis, donc il va consulter un ophtalmo là-bas. Et j'espère simplement que cet ophtalmo va dire la même chose et que de ce fait, les Spurs vont être rassurés sur son état de santé. Et à partir de là, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas avec nous. Et puis il y a quand même un élément fondamental, c'est la détermination de Tony à disputer les Jeux.
Bon, la décision, ce sera soit dans la soirée, soit très tôt dans la nuit du côté des États-Unis. Vincent Collet qui répondait là aux questions de Nicolas Paolorsi.
Oui, et puis une belle nouvelle, heureuse nouvelle pour RMC dans l'actualité olympique, puisque nous sommes aujourd'hui et désormais la radio officielle de l'équipe de France olympique, avec une programmation intense et magnifique tout au long de ce mois de juillet et durant toute la durée des Jeux jusqu'au 12 août. 19h d'antenne quotidienne, notamment sur RMC, pour ne rien rater des Jeux Olympiques, et puis évidemment tous les supports, à commencer par le site internet rmcsport.fr, les smartphones ou encore le quotidien pour tablette. Tout le monde sera mobilisé. Le golf est la première journée de l'Open de France pour terminer.
En tête, le Suédois Christian Nilsson avec une carte de 65, soit 6 sous le par. Le premier Français, c'est Raphaël Jacquelin. Il est à 3 coups à la 8e place. Plutôt satisfait de son score et de sa façon de jouer sur la lancée, en fait, de ses bonnes sorties lors des derniers tournois américain.
Oui, sur la patience, sur l'attitude, et effectivement, j'essaye de voir la même attitude, d'être aussi relâché, comme j'ai pu l'être aussi à l'US Open. La stratégie est d'être assez safe, de pas essayer d'être prudent, essayer de pas agresser le parcours pour pas prendre de double, triple et quadruple, parce que c'est vrai, ici, j'en ai pris pas mal de fois dans les années précédentes. Donc, chaque fois que j'ai mis dans le rough, je me suis recentré tranquillement. Donc, voilà, ça a plutôt bien marché aujourd'hui. Ouais, il reste 3 jours, donc c'est sûr qu'il reste pas mal de trous à jouer.
Raphaël Jacquelin au micro de Camille Gelpi. Et puis Thomas Levé, le tenant du titre, lui a connu une journée un petit peu plus compliquée, une carte de plus 1 à 7 coups du leader et pour l'instant en 64e position.
Merci Martial, à demain pour un nouveau journal des sports, 18h05, 19h05 tous les soirs sur RMC. Allez, direction le Tour de France et la ville de Saint-Quentin, ville natale de Nadine de Rothschild, du révolutionnaire Gracchus Babeuf ou encore du sauteur en longueur Cafétien Gomis, Christophe Cessieux.
Là, il y a du beau monde quand même. Oui. Là, on sent qu'on est dans les hautes sphères. Hein.
Christophe Cessieux et toute la Dream Team RMC Sport pour vous accompagner jusqu'à 20h. Des débats, des polémiques, des infos, comme s'il en pleuvait.
Comme s'il en pleuvait, comme dirait Vincent Moscato. Effectivement, nous allons revenir sur cette 5e étape et la victoire de Greipel il y a quelques instants. Et puis, nous allons revenir sur l'actu qui entoure le Tour de France. Je sais que tu en parleras tout à l'heure également à partir
de la sélection pour les JO.
Ouais, mais là, on va se poser la question si la Fédération Française de Cyclisme ne prend pas un peu les routiers pour des tocards, hein, et pour des demi-selles. On va en parler avec des routiers qui sont tout autour de moi, puisque vous le savez, ils ont décidé de réduire les routiers à 3 et mettre un pistard qui sera là juste pour faire un tour et se sélectionner et se faire ensuite l'épreuve de Kérine sur la piste. Et puis nous allons nous poser la question s'il existe une recette pour rendre les étapes du tour plus intéressantes, parce que c'est vrai qu'elles sont magnifiques sur les 30 derniers kilomètres, mais autrement on s'ennuie, pour ne pas dire
pour
autre chose.
Poli.
Voilà, pour rester poli. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de mails à ce sujet, je vous les lirai tout à l'heure. Et puis évidemment, on parlera de l'étape de demain et l'arrivée à Metz. Là aussi, c'est pour les sprinters, décidément. Voilà, c'est à suite dans un instant et nous sommes ensemble jusqu'à
tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RMC, Intégral Tour, Jean-François Pérez.
C'est Christophe Cessieux, mais c'est pareil, c'est presque pareil, puisqu'on se passe le relais évidemment. Et Jean-François Pérez, vous le retrouverez tout à l'heure à partir de 20h pour Before London. En attendant, c'est l'intégral tour jusqu'à 20h. Nous sommes de retour dans notre petit camion à Saint-Quentin, sous la pluie. Saint-Quentin, où s'est donc achevée cette cinquième étape du Tour de France, remportée tout à l'heure par l'Allemand Greipel qui bis, puisqu'il s'était déjà imposé hier à l'arrivée à Rouen. Cette fois-ci, sprint régulier. Cavendish était à la bagarre et Cavendish a été battu par le gorille de Rostock. C'est le surnom de Greipel. On sait que les deux hommes se détestent et là, je pense qu'il va pouvoir commencer à le narguer. Ils sont là, à mes côtés, pour revenir sur l'actualité de cette cinquième étape. J'ai nommé Luc Leblanc. Tout d'abord, bonsoir mon cher Luc.
Bonsoir à toutes et à tous.
Cyril Guimard est également avec nous, comme d'habitude, comme tous les soirs, avec ses petites fiches bien étudiées, ses classements rangés. Ça, c'est du professionnel. Ça va, Cyril ?
Eh bien, moi, ça va très très bien, puis j'espère encore être là demain soir.
Bah, on l'espère, évidemment, on l'espère comme toi. Et puis Thierry Bourguignon, lui, il n'est pas sous la pluie à Saint-Quentin, mais il est avec nous comme tous les soirs. Salut Thierry.
Et bonsoir, il est sous la pluie quand même.
Qui fait la sieste pour arroser les jardins toute la journée.
Pour arroser les jardins un petit peu. Mais non, monsieur, je travaille.
Même dans le Vaucluse, il pleut maintenant.
Oui, un petit orage, puisqu'il fait tellement chaud que tu vois, c'est orageux.
D'accord. Alors, messieurs, on va s'intéresser donc. On va peut-être revenir tout d'abord sur la victoire de Greipel, victoire à la régulière, Cyril, aujourd'hui. Cavendish.
Hier aussi. Hein.
Oui, mais enfin. Oui. Pas, je veux dire, à la régulière aussi, mais hier, mais
avec Cavendish, quoi.
Sans Cavendish.
Oui, non, mais faut faire attention aux termes qu'on utilise. Quand un sprint n'est pas à la régulière, ça veut dire qu'il y a eu irrégularité.
Votre langage, cher ami.
Avec Cyril, tu peux pas.
Le
faire
juge est là.
Moi, je me mets toujours à la place de l'auditeur. S'il dit que ça a été régulier, ça veut dire que d'autres n'ont pas été réguliers.
D'accord, donc ça a été parfaitement régulier.
Bien, Cyril.
Tout le monde était là, sauf.
Voilà.
Et il s'est mis encore par terre.
Et Sagan.
Oui. Oui, et cette fois, Sagan, oui.
Et Sagan qui n'a pu éviter la chute, il a bien failli l'éviter, mais finalement, il est allé à terre. Greipel, qui mène 2-1 contre Cavendish, c'est vrai qu'on sait qu'ils se détestent, les deux. Alors, comment expliquer la défaite de Cavendish aujourd'hui, Thierry, les séquelles de la chute d'hier ?
On peut l'expliquer comme ça, c'est vrai, mais bon, il était encore mal placé, et puis cette fois, il n'a pas pu remonter. Alors, est-ce que ces séquelles de la chute d'hier, ça peut être un peu facile de l'expliquer comme ça, mais c'est vrai qu'une chute, elle laisse toujours des séquelles, et on sait très bien que quand on a fait du vélo, que quand on touche le sol, quelques jours après, même le lendemain, surtout le lendemain, on a les contusions, on n'est pas dans notre élément. Voilà, c'est tout.
Cyril.
Et surtout pour lancer un sprint à pleine puissance.
Mm-hmm. Pourtant, on l'a vu sur le sprint intermédiaire pas mal, Cavendish.
Ouais, mais là, il n'y a personne.
Oui, enfin, le sprint intermédiaire, c'est pas le sprint d'arrivée avec où il faut frotter, où c'est parti très très loin. C'est juste les coureurs intéressés par le classement du maillot vert qui viennent se frotter. Mais je pense que la chute, ça n'aide jamais. Hein, et à mon avis, on est toujours un petit peu moins bien. Mais ce qui est le plus important et même un peu surprenant concernant Mark Cavendish, c'est qu'il avait trop grand. Quand je dis il avait trop grand, il avait un braquet, un développement beaucoup trop important. Et on a bien vu quand Greipel a fait son effort avec sur la vélocité, Cavendish, lui, avait du mal à emmener son grand développement et il est resté pendu.
Ouais, il s'est trompé dans le livre dans le roadbook, il a pas bien regardé.
Je sais pas s'il a bien, mais il y a pas besoin de regarder le roadbook quand vous arrivez dans une bosse à ce niveau-là, bon, ça fait quand
on
même.
On connaît le développement qu'il faut mettre.
Ouais. Voilà, non, instinctivement, vous posez même pas la question, c'est-à-dire que vous allez mettre le développement qui va, quoi. Et là, non, il avait trop grand.
Ouais, en tout cas, moi, j'aurais pas mis meilleur. De développement. Je restais au milieu, tranquille.
mais toi, tu n'es pas un frotteur.
J'aurais regardé les débats. Non, mais ceci dit, Cyril a raison. Il avait quand même un grand braquet. Mais aujourd'hui, quand même, contrairement à hier, Cavendish a été quand même emmené par ses équipiers. Il avait quelques équipiers autour de lui pour le remonter quand même
dans les derniers kilomètres. Mais pas pour lancer le sprint,
mais simplement pour le remonter, le replacer. Voilà.
Aizel était-il là, d'ailleurs, dans le sprint ? On sait qu'il s'est.
Non, Aizel n'est pas dans le sprint. Ouais.
Non, non.
Et c'est peut-être Aizel a travaillé avant le sprint, mais il n'a pas joué au poisson pilote.
On y reviendra évidemment tout à l'heure, puisque nous allons parier sur l'étape de demain avec l'arrivée à Metz. Là aussi, c'est pour les sprinteurs. Cavendish égalisera-t-il à deux partout? On en parlera tout à l'heure. Alors, il y a l'actualité du Tour, mais il y a l'actualité autour du Tour. Vous le savez que les Jeux Olympiques débutent dans un peu plus de trois semaines et un jour. Et aujourd'hui, eh bien, la Fédération française de cyclisme a donné sa sélection pour l'équipe routière qui tentera de décrocher une médaille à Londres. Et surprise, on était dans la voiture tout à l'heure avec Cyril lorsqu'on a reçu le communiqué de la Fédération française de cyclisme. Donc, quatre garçons sélectionnés. Sylvain Chavanel, c'est normal. Tony Galopin, c'est encore plus normal, ou aussi normal. Le troisième homme,
Arnaud Demare, c'est normal.
C'est complètement normal. Et puis le quatrième, normal. Alors on a cru à une erreur de frappe. On a dit, ils se sont trompés de sélection. Michael Bourguin, qui n'est pas un inconnu, loin de là dans le monde du vélo, mais plutôt sur la piste.
Il s'est mis sur la route.
Et voilà, il s'est mis sur la route. En tous les cas, les gens de la Fédération française de cyclisme l'ont mis sur la route, car, et c'est là l'explication, ce n'est pas une erreur de leur part, il faut, pour que Michael Bourguin, qui est l'un des favoris du Kérin, pour qu'il puisse participer à cette épreuve sur piste, il faut qu'il ait fait une autre épreuve olympique avant.
Comme
il n'est pas inscrit en vitesse individuelle ni en vitesse par équipe, eh bien le subterfuge a été tout trouvé. On va piquer une place aux routiers pour faire une place aux pistards. Et donc,
foutent alors des routiers.
C'est la question. La Fédération française de
cyclisme. Non, mais un choix, c'est clair.
Prend-elle les routiers?
C'est clair qu'il a de grosses prétentions pour prendre la médaille d'or au Kérin. Vas-y, Christophe, vas-y.
Non, vas-y.
Vas-y, je t'en prie. Vas-y, arrête, il va y avoir un blanc là.
J'essaye de lancer la question.
Oui, vas-y.
Question. La Fédération française de cyclisme prend-elle les routiers pour des demi-selles, pour des tocards? Est-ce que tu as un tocard, Lucho? Est-ce que tu l'aurais mal pris si tu avais été remplaçant aujourd'hui?
Oui, j'aurais mal pris, oui. Oui, bien sûr que je l'aurais mal pris, parce que bon, mais c'est quand même la route, c'est pas adapté pour les sprinteurs. En plus, bon, même s'il a un objectif de prendre de remporter le Kérin et d'avoir la médaille d'or, c'est quand même enlever une place à un routier qui s'est défoncé depuis le début de saison, depuis le mois de février, pour faire des résultats et rentrer dans les sélections, que ce soit pour les Jeux ou pour les championnats du monde. Et c'est vrai que c'est une grosse déception pour le côté des routiers. Les gars qui étaient présélectionnés, je vais pas emprunter un mot hard, mais bon, ils se sont fait et donc c'est
enflé,
pas bon.
Enflé,
ils se sont fait enfler. Donc oui, moi j'aurais été à la place des remplaçants. Oui, j'aurais dit mon mot quand même.
D'un autre côté, Thierry, il faut bien se rendre à l'évidence. Les routiers français ont très peu de chances de briller dans cette course olympique.
Oui, non c'est non, mais c'est clair. C'est
alors que Bourguin a une réelle chance de décrocher une médaille en Kérin.
Réelle chance. Il a été déjà médaillé par le passé. C'est vrai qu'il a une chance de l'être encore une fois. Ça, c'est la fédération qui a pris ses responsabilités, qui a pris l'initiative de faire ceci. Et j'espère pour elle que ça sera une belle histoire.
Oui, mais Thierry, moi, je suis pas d'accord avec Christophe. Pourquoi on n'a aucune chance de remporter une médaille sur la route?
Mais pas aucune chance.
Mais vu les résultats sur les courses d'un jour,
On part battu d'entrée, quoi. Je veux dire, course d'une journée, il peut se passer plein de choses. Bien sûr, si c'est une bosse de 3-4 bornes à monter plusieurs fois, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance. Mais là, on a peut-être une chance de pouvoir remporter une médaille aussi bien sur la route. Donc moi, je dis non. Donc chaque chose à sa place, quoi. Je veux dire, les routiers, les pistards.
Je vous ai un peu écouté cet après-midi, et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec Cyril. Je pense que c'est pas une faute de la fédération, c'est quelque chose qui a été très pensé à l'avance, et voilà. Après, on est d'accord ou pas.
Ce qu'il faut dire, et la DTN l'a expliqué d'ailleurs sur notre antenne hier, on est dans la performance, on n'est pas dans la récompense et on n'est pas dans « je vais vous faire plaisir ». Les fédérations françaises ont un certain nombre d'obligations, de critères, et c'est la raison pour laquelle elles ont des budgets, on va dire, olympiques pour la préparation olympique. Et l'objectif, c'est de ramener un maximum de médailles de Londres. Donc, qui est-ce qui a le plus de chances d'aller chercher une médaille? Est-ce que c'est Arnaud Demare ou Tony Galopin ou Chavanel, ou est-ce que c'est Bourguin? La réponse, elle est claire, c'est Bourguin. Sauf qu'il y a des petites astuces sur le plan des règlements, c'est que pour faire le Kérin, il faut également être inscrit et participer à une autre épreuve.
c'est un problème de quota. Ouais.
Alors, comme on ne pouvait pas inscrire Bourguin dans la triplette de la vitesse par équipe, parce qu'elle est bien rodée, elle est bien entraînée, les trois coureurs se connaissent, et ils sont, parce qu'il y a les chronos qui sont faits tous les jours à l'entraînement, on sait que l'équipe la plus efficace, eh bien, ça n'est pas avec Bourguin. Mais Bourguin, en revanche, dans le Kering, est celui qui a le plus de chances d'aller chercher une médaille. Donc, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste tout simplement à dépouiller un peu l'équipe de France sur route, où il y avait peut-être l'autre possibilité, possibilité d'ailleurs qu'ont utilisé les Allemands, c'est-à-dire mettre un pistard en VTT. Mais nous,
oui, mais VTT, VTT, on a un double champion olympique. Julien Absalon, Jean-Christophe Perrault, là, c'est...
Oui, voilà. Donc là
on a de réelles chances de médaille.
Hein,
on
a une chance pratiquement sûre, sauf accident, de ne pas aller chercher de médaille en VTT. D'ailleurs, quand Isabelle Gautron, la DTN, donne le nombre de médailles possibles pour les Français, on est à 8.
Elle les compte toutes. Hein.
Elle les compte toutes.
Alors, aussi.
Bon, or, bon. Et Bourguin, il peut pas y chercher. Sur la route, c'est quand même très, très
c'est
aléatoire.
C'est très aléatoire, voilà, c'est ça. Ouais.
Donc, comme c'est très aléatoire, ils ont pris la décision de.
Voilà, on va écouter tout de suite Laurent Jalabert, qui est évidemment le sélectionneur de cette équipe de France de cyclisme sur route. Vous allez l'entendre, la Fédé, c'est son patron, donc il peut rien y faire. On l'écoute.
Bien sûr que je regrette. 4 coureurs, c'est déjà pas beaucoup. Et quand on doit trancher 25% dans ces 4-là, forcément, ça réduit encore la marge de manœuvre le jour de la course. J'étais déjà dans l'embarras parce que c'est toujours difficile de laisser des coureurs dehors d'une sélection. Et j'espère qu'il aura de la réussite. J'espère surtout que ça ne va pas le perturber dans sa préparation et qu'il reviendra de Londres avec une belle médaille et surtout qu'il nous paiera un petit coup à boire parce qu'on y sera quand même pour quelque chose aussi.
Voilà.
Elle est très bonne, ça.
Ah, bah oui, non, évidemment. Ah ouais, non. Hein. Il va avoir une pression terrible. Michael, il était avec nous tout à l'heure dans l'intégral tour. Il était un peu embêté, mais c'est pas lui qui a pris la décision. Bon, évidemment, il est ravi d'aller faire les jeux. Il s'est préparé pour ça et on lui avait annoncé qu'il était sélectionné en Kering. Tiens, la réaction également de Thomas Vauclair qui, du coup, se retrouve remplaçant de Michael Bourguin sur route. Il y a des situations ubuesques. Thomas Vauclair.
J'ai discuté avec Laurent Jalabert. Je ne sais pas si, en bonne santé, il aurait compté sur moi. Ce qui est sûr, c'est que je ne pouvais pas lui garantir que mon genou, ça allait être super et puis que j'allais finir le tour et tout. Donc, il a décidé de me mettre remplaçant. Il n'y a pas de problème. Je serais presque à dire que je comprends. Par contre, je suis très surpris qu'il y ait 3 sélectionnés.
Voilà, très surpris qu'il y ait 3 sélectionnés. Michael est sélectionné. Hein. Il fera le départ. Je ne sais pas combien de kilomètres il va faire.
Il fera au minimum un tour.
Et il fera un petit tour pour voir. Ah, c'est sympa, il va aller frotter avec Ancelara, il va aller frotter avec Samuel Sanchez.
Bah, de toute façon,
ce sera un beau souvenir pour lui.
20 ou 30 kilomètres, il sait le faire.
Il voulait faire de la route, oui. Il nous le disait tout à l'heure.
Mais surtout, c'est que même si on prend avant une séance de vitesse, les coureurs vont faire pratiquement 20 à 30 minutes derrière Derny avec accélération progressive pour chauffer la jambe. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de rouler 20 km sur la route.
Évidemment, Morgan.
Plus que le parcours n'est pas montagneux. Donc.
Oui, c'est vrai que ce sera
il
pas. Plate,
ouais, s'il y a une prime au premier tour, il peut aller la faire. Hein.
Il peut.
Une bonne pointe de vitesse, il peut taper Cavendish. Tiens, Morgan nous appelle au 32-16. Bonsoir, Morgan.
Bonsoir toute l'équipe.
Bonsoir Morgan. Vous vouliez réagir sur l'annonce et sur le fait que Michael Bourguin a donc été sélectionné avec les routiers.
Voilà, moi je suis tout à fait pour. Je pense que c'est vrai que même si Arnaud Demare peut faire quelque chose, ça va être très difficile face à un Cavendish, un Greipel, ça va être vraiment très dur. Et surtout, je pense que avec cette sélection là, je pense que Michael Bourguin, le jour du Kering, va vraiment se dépouiller. Et moi, je sens vraiment la grosse médaille. Je sens vraiment la médaille d'or pour Michael Bourguin, quoi.
D'accord, ouais. Donc
je
ça va.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je.
Mais en tous les cas, il a la pression.
Il a la pression, doublement
pression.
Mais alors, ce qui est formidable pour Bourguin, c'est que vous savez les pistards. Il passe quand même sous les ténoirs au niveau de la communication. Le simple fait, pendant le Tour de France, de se retrouver dans une sélection pour les Jeux Olympiques avec l'équipe de France sur route, pour lui, c'est jackpot au niveau de
la communication.
Au niveau de la communication. Là, il va devenir quelqu'un de connu. Il va atteindre la grande notoriété.
Ah bah oui, il est passé dans l'intégral tour cet après-midi, tu
imagines. Bah oui, en plus. Et on continue à en parler.
Ouais,
bon, bah allez Mickaël, t'as intérêt à nous chercher une médaille d'or.
Ça va faire débat.
Non mais on va, en plus au moment des jeux, il va être interrogé par tous les médias français, c'est vrai que ça va être terrible.
Il va devenir une star.
Ça va être la star de l'équipe de France. Voilà Morgane, dans tous les cas, on lui souhaite évidemment à Mickaël une belle médaille d'or.
C'est un formidable
pistard. Et de toute façon, c'est pas lui qui a pris la décision. Voilà donc pour cette affaire. On y revient tout à l'heure avec Jean-François Pérez à partir de 20h dans Before London, parce qu'évidemment, ça fait l'actualité olympique tout autant que l'actualité du Tour de France. Alors, deuxième débat, si vous le voulez bien, messieurs, existe-t-il une recette pour rendre les étapes du Tour plus intéressantes? Parce que c'est pas qu'on s'ennuie, mais presque. Tenez, juste deux mails que j'ai reçus cet après-midi. Message par exemple de Richard qui nous dit: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Là, c'est hard.
Il se trouve que mes vacances tombent pour la première fois pendant le tour et je me suis dit que j'allais buller devant la télé. Mais qui diable organise cette purge? Des jours entiers convenus, prévus d'une chienlit qui confine au soporifique. Je vous pose une question, mais ils veulent faire rêver qui avec ce spectacle navrant? Bon, en gros, deux ou trois jours de bagarre pour régler trois semaines de course, vivement les jeux. Ça, c'est bien écrit, c'est bien envoyé, c'est un peu dur évidemment. Et puis Patrick, deuxième mail que j'ai reçu. Nous dit: je suis le tour depuis 50 ans, je trouve ce début de tour d'une tristesse sans précédent. Pourquoi toujours les mêmes sempiternelles étapes où c'est encore et toujours les équipes de sprinteurs qui règlent tout ça? Les autres coureurs n'ont-ils plus le droit de se distinguer? Bougez-vous, faites du neuf, de l'inédit, commencez la première semaine par le massif central. Mais non, évidemment, la tradition du tour veut que toujours pareil, quoi. Dommage. Voilà
Attendez, 2013,
ça va commencer en Corse par
en
une
Corse,
étape de montagne
mal plat et de suite dans les Alpes, au pied des Alpes avec Nice.
Bon, c'est, alors, y a-t-il des recettes? C'est vrai, Christian Prudhomme et les organisateurs du Tour ont tenté de mettre des petites étapes comme ça, de manière à changer la monotonie du Tour.
On peut pas faire un Tour avec des cols et des cols.
Mais sans col, mais regarde ce qui s'est passé à Boulogne l'autre jour.
Oui, mais bon, ce sont les coureurs qui font la course.
Pourquoi faire des étapes aussi longues?
Parce que après, c'est la demande des villes étapes, et puis après, il faut faire le tour en conséquence des demandes des villes et tracer le tour.
Rappelez-vous qu'après 98, on disait qu'il fallait raccourcir les étapes et qu'on gagnait en intensité en raccourcissant les étapes parce que on avait des coureurs qui étaient un peu plus incisifs.
Il faut bien avoir des journées de transition.
Regardez ce qui se passe, que l'étape passe 140 ou 200 km,
pareil,
ou voire 100 km. C'est le premier coureur qui attaque qui s'en va.
C'est dommage.
Il est là le problème.
Mais dans deux jours, vous ne direz pas la même chose. Mais attendez, il en faut pour tout le monde aussi. Je veux dire, il y a des étapes pour les sprinteurs, il y a des étapes pour les grimpeurs. Voilà. Après, il y a les étapes pour les baroudeurs, puncheurs, un petit peu de moyenne montagne où les gars qui savent grimper un petit poil, s'en sortent bien. Oui, il en faut pour tout le monde.
Pour l'instant, il y en a un paquet qui ont un gros poil dans la main. Hein.
Ouais, mais il en faut pour tout le monde.
Je suis d'accord avec Cyril.
Mais le tour il est long. T'as fait le tour. Tu t'entames les premiers jours. Je suis désolé, quoi. Après, il reste 15 jours.
Et quand t'entends les directeurs sportifs dire aux mecs, ne surtout pas aller dans les états, dans les échappées, c'est navrant.
Mais c'est pas tous les directeurs sportifs qui donnent la consigne à leurs coureurs,
puisqu'il n'y en a que trois devant.
Mais ils savent très bien, les coureurs qui sont devant aujourd'hui savent très bien qu'ils seront peut-être pas devant dans la grande montagne.
Regarde aujourd'hui.
Ça a failli arriver aujourd'hui. Quel reproche on peut faire?
Le problème, Lucho, c'est que c'est les trois premiers coureurs qui accélèrent qui s'en vont, ou les quatre premiers. Il n'y a même pas de bagarre, il n'y a personne qui ressort derrière ou qui essaye de revenir.
Mais parce que certains coureurs ont la peur au ventre peut-être d'arriver hors délai et de ne pas faire trop d'efforts.
Faut qu'ils changent de métier.
Voilà, faut pas qu'ils viennent sur le tour.
Mais c'est vrai, Lucho, tu peux pas dire des choses comme ça. Si le mec il a peur d'attaquer sur le tour et qu'il pense à finir le tour, mais qu'il laisse la place à des mecs qui ont envie. C'est pas possible.
Non, je suis d'accord.
C'est peut-être leur directeur sportif aussi, Thierry, non?
Si c'est ça, c'est le monde à l'envers.
Il faut supprimer les oreillettes, il faut supprimer tout ça.
Les oreillettes apportent ça.
Par rapport aux oreillettes, chaque jour, je te promets, chaque jour, il y a des gens qui sont sur le bord de la route ou qui sont à l'arrivée ou au départ me disent: on pourrait pas revenir au temps où il y avait plus les oreillettes. Qu'est-ce que c'était chouette.
Message de fumée.
Qu'est-ce que c'était chouette la course.
Ouais, va dire ça à Lefebvre, à Pierre Brunel,
à Bernerice.
À la Sky. Attends, c'est eux qui bloquent tout. Hein.
Bah, bien sûr.
Et l'UCI, ils n'y arrivent pas.
L'UCI n'y arrive pas. Tiens, Thierry nous appelle au 32-16. Il voulait intervenir là-dessus. Moi, j'avais soumis l'idée, comme ça avait été déjà évoqué en 98, de raccourcir les étapes, mais je crois que Thierry n'est pas du tout d'accord avec moi. Bonsoir, Thierry.
Ouais, bonsoir, messieurs. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Là. Et c'est un débat qui revient tous les ans. Enfin, moi, c'est une problématique qui n'en est pas une pour moi. D'un point de vue historique, si on résume le Tour de France à une course de côte, c'est plus le Tour de France, d'une part. Ensuite, il y a plusieurs raisons qui font que moi j'aime bien ces étapes-là. Une de ces raisons, c'est que ça permet à certains baroudeurs de tenter leur chance. Hein. Je ne vais pas parler de Thierry Marie il y a quelques années, ou pourquoi pas même encore aujourd'hui, où si les quatre de devant n'avaient pas tergiversé, là, un ou deux kilomètres de l'arrivée, ça allait au bout. Ensuite, ça permet aussi... aux auditeurs de votre antenne qui sont pas forcément au fait de tout ce qui se passe tout au long de l'année dans le vélo, grâce à Fred, de faire connaissance avec les coureurs, de nous parler du palmarès, de leur parcours un petit peu. Donc ça met un petit peu l'eau à la bouche, je trouve ça intéressant. Alors pour utiliser une métaphore un peu gastronomique, c'est un petit peu comme quand on sort un gâteau du four, avant de le manger, on hume les saveurs, on le regarde, enfin bon, tout ça fait monter la pression et nous amène doucement vers la montagne, mais ça nous permet aussi également d'assister à des sprints magnifiques. Enfin bon, sur les trois dernières étapes, on peut pas enlever ça. Pour rebondir sur ça, j'aurais peut-être une petite question à poser à Luc et par la suite à Cyril, si tu m'en donnes la permission.
Bien sûr, Thierry, mais rapidement parce qu'on est un petit peu pressé.
Ouais, je comprends. Pour parler de ce début de tour-là, de cette année-là, Luc, j'aimerais savoir si le fait que Cancellara soit maillot jaune, mais on sait que Cancellara est un des patrons de ce tour, n'étouffe pas un petit peu la course et incite certains coureurs à ne pas peut-être jouer leur chance sur ces étapes-là avec peut-être des menaces de représailles, je ne sais pas.
Non, pas du tout. On n'en arrive pas là quand même. Cancellara, il a pris le maillot jaune, mais ça n'empêche pas aux autres équipes de diriger leurs coureurs. Si certains coureurs veulent s'échapper, ils s'échappent. Il n'y a pas de... Cancellara, ce n'est pas Bernard Hinault, hein, attention. Hein, je veux dire, c'est fini l'époque d'Hino, Anquetil, Merckx...
Armstrong.
Je pense que Thierry veut... faire un clin d'œil à l'attitude qu'il avait eue le tour.
Oui, donc il y a deux ans avec Sylvain, la chute des frères Schleck en Belgique.
Où il avait arrêté le peloton.
Non, mais les représailles, il n'y a pas de représailles. C'est-à-dire, les coureurs font la course. Leur directeur sportif leur donne des ordres. Bon, après, il y a un briefing le matin qui se met en place. Il y a une stratégie de course à adopter. Bon, les coureurs qui ont envie d'attaquer, ils attaquent. Aujourd'hui, c'était la Danius. Hier, c'en était d'autres. Aujourd'hui, ils étaient quatre. Hier, ils étaient trois. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de...
Sans parler de menaces, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une entente tacite? Non. Notamment avec les principaux favoris du tour, que sont Wiggins, Cadel Evans, et quelques autres qui ont des échéances plus lointaines, et en fait ça les arrange un petit peu d'avoir une première semaine de course un petit peu plus calme.
Mais de toute façon, à la limite, il peut y avoir une entente entre l'équipe Wiggins, l'équipe de Cadel Evans et l'équipe de Cancellara pour gérer la course. Alors ils se disent à un moment donné, tiens, une échappée, la première attaque, première échappée, comme ça on gère derrière et c'est pas dangereux pour nous pour le classement général, et on va attendre la fin de la première semaine. Ça, c'est probable aussi. Mais quant à faire des représailles après sur certaines attaques de certains coureurs, non.
Non, ce qui est regrettable, c'est ce que Cyril disait, c'est que personne relance derrière. La première attaque elle est partie.
Ouais, ouais.
Donc c'est qu'il n'y a pas d'envie forcément. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu suicidaire, mais par le passé, on l'a toujours vu. Les 30-40 premiers kilomètres, c'était la bagarre. Mm-hmm. Et on savait très bien qu'au bout d'une heure, tout le monde avait envie de s'arrêter, s'abreuver, pisser. Et ça s'arrêtait là. Il y avait un coup qui partait forcément.
Ouais, mais il fallait attendre une heure. Maintenant, il faut attendre une minute. Très bien. Merci Thierry. En tous les cas, Thierry, fidèle auditeur de l'Intégral Tour qui vient de temps en temps nous voir sur le tour. D'ailleurs, il a demandé à Luc si, Luc, tu peux lui obtenir une invitation. Hein. Tu n'oublies pas, Lucho. Hein,
ah, il avait oublié.
Une chose promise est une chose due.
J'ai jamais rien dit.
Tiens, allez, on va jouer maintenant, s'il vous plaît.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Voilà, comme tous les soirs, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France pour gagner. Il faut répondre à la question suivante. Quel pistard a été sélectionné? Elle est dure celle-là. Aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques de Londres, sur route, si vous pensez que la bonne réponse est Mickaël Bourguin, vous envoyez A par SMS au 732-16. Si vous pensez que la bonne réponse est Grégory Boger, vous envoyez B par SMS au 732-16. Bonne chance. 19h43, l'intégral tour revient dans une minute. On va évidemment parier, revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui et évoquer l'étape de demain qui va conduire le peloton d'Épernay, pays du Champagne, à Metz, pays de je sais pas quoi. Et ben en tous les cas, on en ferme, on en parle tout de suite dans l'intégral tour. A tout de suite.
RMC, intégral tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour, c'est la dernière ligne droite. En tous les cas, ce soir, évidemment, nous revenons dès demain, 15h, pour la sixième étape qui conduira le peloton d'Épernay à Metz. Toute la Dream Team est rassemblée à mes côtés. Luc Leblanc, Cyril Guimard et Thierry Bourguignon. Et évidemment, Benji va nous rejoindre car il est l'heure, il est grand temps de parier.
Les paris RMC, Tour de France.
Benji, bonsoir.
Salut messieurs.
Salut. Alors, Benji. Mon cher Benji, d'abord.
Salut Benji.
Le récapitulatif de la journée. J'ai essayé de prendre la roue de Thierry Bourguignon hier. C'était pas la bonne roue.
Ouais, trois jours de suite à prendre celle de Cyril pour finalement te faire avoir, Christophe, aujourd'hui, puisqu'il fallait bien suivre Cyril Guimard qui avait joué André Greipel. Cote de 3,30 au moment où il l'a joué. Donc Cyril fait comme l'année dernière. Égoïste Cyril Guimard qui récupère le maillot jaune, le maillot vert, bref, il a tous les maillots comme d'habitude.
Hier, il avait
récupéré sauf le blanc.
Oui.
Ça pour le blanc, il a du mal. Il est aussi mal que lui.
Il aura du mal, il ne l'aura plus jamais le blanc, c'est terminé pour le blanc. Oui,
le blanc non plus.
Pour moi, c'est terminé aussi.
Le blanc, c'est pas la bonne couleur.
Oui, Lucho.
Il faut savoir prendre des risques. Moi, j'ai suivi Benji.
T'avais de l'équipe.
Oui, mais Petaki. Ben ouais, mais bon.
Pétaquer une jambe en moins.
Oui, mais c'était une belle cote, hein, 17, je crois.
Hein. Ah ouais, bah alors, Fred Adam lui avait donné
quoi,
qui déjà
Fred, il avait donné Jimmy Engoulevent.
Je sais pas comment.
Je l'ai vu dans le final, il était devant.
Ah, bah tu vois,
Oui, il protégeait Coppel.
Bon, enfin bon, voilà, le classement est minable pour
druide,
moi.
Le druide est devant, ouais. Il devance, je pense, Thierry et puis les
mais
autres.
Mais ceci dit, on n'est pas au bout de la première semaine, il faut se méfier.
Bien sûr,
c'était pas une semaine pour toi,
l'inspecteur. Non,
pas du tout.
On n'est pas au bout de nos joies.
Ouais.
De nos joies et de nos peines. Demain, donc je le disais, sixième étape, Benji, 207 km, c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France. Et permis, c'est pas la plus longue, il y en aura même une encore plus longue que ça. En tous les cas, quels sont les favoris? Les mêmes, hein, Greipel, Cavendish. Est-ce que Tyler Farah fait partie des favoris pour la chute?
Farah, il est 50, la cote de Tyler Farah. Cavendish favori à 2,50, mais alors André Greipel, il a commencé à être dans les 4e, 5e favoris en début de tour avec une cote de 8. Et là, désormais, il est à 2,60, donc c'est quasiment une égalité parfaite entre Greipel et Cavendish. Ouais. Troisième, Matthew Goss. J'ai remarqué une petite stat, messieurs, qui est peut-être encourageante pour les Français. Les deux dernières fois qu'un coureur a remporté deux étapes consécutives, c'était Marc Cavendish. Et à chaque fois derrière, l'étape a été remportée par un Français. C'était Vauclair et Chavanel en 2010 et 2009. Donc pourquoi pas un Français à l'arrivée?
Du Moulin au sprint.
Quatrième aujourd'hui. Quatrième.
C'était pas une arrivée plate.
Ouais. Alors, quels sont vos favoris? On va commencer par Lucho, car dans le sprint, il s'y entend, il est dernier. Donc
non, je suis dernier, moi je regarde. Tu veux pas
commencer, Thierry?
Si, je veux commencer.
Alors, je sais pas.
Lucho, vas-y.
Je sais pas, j'en sais rien.
Bon, Thierry, vas-y, à toi, parce qu'il y a pas de
bon cœur balance entre
Cavendish
et Greipel.
Voilà,
c'est clair. Cavendish est très revanchard parce qu'ils sont très copains avec André.
Ils sont amis, ils partent en vacances tous les ensemble.
Moi, ça y est, je sais.
Ah, s'ils peuvent se mettre des coups de but, ils se le mettent. Hein.
Oui.
Mais j'espère qu'ils ne le feront pas demain parce qu'on m'annonce quand même deux beaux virages dans les deux derniers kilomètres. Donc ça peut encore s'entasser.
Il y en a très beau à 2 km de l'arrivée. Magnifique.
Et comme on dit en France, jamais 203. Alors, Greipel. Et puis
Greipel. Bon.
C'est Cavendish qui va gagner.
C'est sûr. Bon, Thierry, donc Benji, tu nous as dit qui, Greipel, toi?
Moi, je vais jouer. Goss parce que c'est 8,50.
Ah ouais, d'accord.
Et Petaki, il a combien?
Petaki, il est à 22 maintenant.
Alors, moi, je vais jouer Petaki parce que je sais qu'il va y avoir une grosse bagarre entre Cavendish et Greipel demain. Et je les vois bien se foutre dedans, dans le dernier virage, dans le tas. Donc je mets Petaki qui va sortir du lot demain.
Et s'il tombe pas avec eux?
Non, mais
parce qu'à la vitesse,
mais non,
ça va.
Non. Allez, Petaki, Benji, je mets.
Petacchi. Petacchi pour Lucho.
Et Christophe va donner son prono avant Cyril Guimard, hein, oui. Monsieur Sessieux, s'il vous plaît.
Je vais donner Cavendish, moi, demain.
Cyril,
je vais donner.
Je vais donner également Cavendish.
Ah, t'as vu, le druide prend ma roue, c'est incroyable.
Formidable, vous allez vous casser la gueule dans le dernier virage.
Non, moi j'ai remarqué que quand on pariait tous les deux ensemble, ça marchait.
Ouais.
Hein? Alors Cyril, explique-nous pourquoi Cavendish demain.
D'abord parce que là, ça fera 24 heures de plus par rapport à sa chute. Il a démontré aujourd'hui que s'il était peut-être un petit peu diminué, même sûrement, il perd un peu cette étape sur une faute technique. Et que ça n'est pas le genre de coureur à se laisser humilier comme cela. Hier, il ne peut pas disputer le sprint. Aujourd'hui, il est humilié par Greipel, qui l'a bien allumé dans les médias.
Ça que je te dis, ils vont se foutre dedans, tu vois, dans le dernier virage.
Donc demain, l'autre, il va arriver à avoir la baffe partout.
Ouais.
Il a
peut-être
aussi,
des égratignures aussi.
La
bave
de bulldog.
C'est plat.
Le bulldog allemand, il est pas beau. Hein.
Ah, le gorille de Rostock, tu veux dire.
Quand il envoie le sprint, il fait peur. Hein.
Parfait. Donc voilà. Donc,
tu te rends compte si Petacchi gagne demain. Alors là, je passe en tête.
Non, je peux tellement de retard que.
Tu rigoles ou quoi?
Non, mais ne rêve pas.
Bah, Benji.
Oui, Lucho, si Petacchi gagne demain, tu passes en tête du maillot jaune, effectivement.
Jusqu'à l'arrivée, d'ailleurs, après.
Non, je te le laisserai. Je te laisserai un petit intérim dans ce cas-là.
Christophe, on va féliciter quand même la Dream Team, parce que Lucho et moi, on n'y est pour rien, mais tous les vainqueurs ont été donnés par quelqu'un depuis le début du tour, quand même, pour qu'on continue comme ça. Hein.
Il faut nous écouter, surtout le druide, évidemment.
Mais vous savez qu'aujourd'hui, on est quand même passé près de la correctionnelle, car compte tenu de la façon dont le sprint s'est déroulé, si Peter Sagan n'avait pas été faire un tour avec la fille, avec la fille du cantonnier, je pense que c'est lui qui aurait mis tout le monde d'accord, là.
Il faut être honnête pour le reconnaître. On verra demain, peut-être une échappée arrivera-t-elle au bout. Voilà, c'est terminé pour les paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et on retrouvera évidemment Benji dès demain. Salut Benji, à demain pour les paris aux alentours de 15h40, juste après le début de l'intégral tour. Il est là, Dédé, comme tous les jours. Dédé avec son gros Léon qui n'a pas grand chose à faire. Parce
non,
qu'il a pas beaucoup
rien
de,
du tout aujourd'hui.
Rien. Mais il faut dire que vu la chaleur qu'il fait, le goudron ne fond pas.
Ça risque pas de fondre.
Il n'y a personne qui jette des clous.
Pas de clous aujourd'hui. Et c'est tant mieux.
Il n'y a personne qui perd d'huile. Tout va bien.
Pas encore, pas de perte d'huile, pas de gasoil. Rien. Dramatiquement plat.
Bon, alors dramatiquement plat aussi demain?
Moyennement dramatiquement plat, mais pas terrible non plus. Puisqu'il n'y aura qu'une côte. Il n'y aura qu'une côte de 4e catégorie, kilomètre 145. La côte de Buxières, 2,7 km à 3,8%. Autant dire que ça ne devrait pas laisser beaucoup de traces dans le peloton quand même. Hein.
Attention, Bernie.
Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme relief. Le reste, c'est 4 départements, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle pour 207,5 km. C'est pas très très compliqué. Quelques petites difficultés. Au passage, 26 giratoires, 3 rétrécissements, 9 séries de ralentisseurs. Donc c'est plutôt du classique. Attention, après le sprint à Saint-Mihiel au kilomètre 136, une série de giratoires, de rétrécissements et d'avancées de trottoir, faudra faire attention. Et puis la fin de l'étape, on en parlait tout à l'heure avec ce virage très serré à 2 km de l'arrivée, et puis ensuite un dernier giratoire juste avant la flamme, et encore un 90 degrés avant d'arriver sur l'avenue Louis le Débonnaire sur les 700 mètres de ligne droite finale.
Très bien. Donc faudra se méfier demain. Merci Monsieur Dédé. On vous retrouve demain là aussi en début de retransmission. Il est là, Jean-François Pérez.
Christophe Cessieux.
Pour prendre le relais. Et pour nous parler à nouveau de cette histoire, de cette sélection qui fait couler beaucoup d'encre.
Ah, je te confirme, hein, Mickaël Bourguin, ça ne coule pas de source. Hein, il fait donc partie des 4 Français sélectionnés pour les épreuves sur route, alors qu'il n'a, on est d'accord Christophe, aucune chance de bien figurer.
Non, il va faire un tour, même pas peut-être.
Voilà.
Il va faire un tour. Mais
tout
bon,
ça pour avoir une médaille au Kérin. On espère qu'il va avoir une médaille au Kérin.
On lui souhaite, on lui met une sacrée pression dans cette histoire-là. Hein.
Bon, on en parle, en effet, Christophe, dans Before London tout à l'heure avec Isabelle Severino et Marie Zévan GP. Les invités de ce soir, Fabrice Pellerin, notre membre de la Dream Team RMC Sport que tu connais bien, à la veille de l'Open EDF de natation. Hein, il y aura Camille Muffa, Yannick Agnel évidemment, et tous les autres grands nageurs français, à commencer par Laure Manoudou. Invité triathlon ce soir, Laurent Vidal. On parlera d'athlée, on aura notre London Calling quotidien avec Florian Fieschi. Et puis Arnaud Démare sera également avec nous pour boucler la boucle cycliste.
Très bien, et eh bien moi je vous retrouve demain à 15h avec toute l'équipe.